6. On approchait de la porte imposante lorsqu'une chose jaillit d'une construction en ruine sur le bord de la route devant nous. Je dégainai le calibre 45 de M. Boditch, mais avant que j'aie le temps de lever le canon, et à plus forte raison de viser, la chose fit un grand bond, un peu de travers, et atterrit sur le dos de radar. C'était le snab. On était tous abasourdis, sauf ma chienne. Elle avait déjà transporté ce passager particulier et semblait disposée à recommencer. Le snab s'installa sur sa nuque, telle une vigie. Aucun signe de Léa et de Falada à proximité de la porte. Je n'aimais pas ça. Je m'arrêtai pour essayer de prendre une décision. Le snab descendit de sa monture, sautilla presque jusqu'à la porte, puis tourna à droite. Radar le rejoignit, lui donna un coup de truffe, sans qu'il s'en formalise, et se retourna pour voir si on suivait. Une voie pavée, sans doute destinée à la maintenance au bon vieux temps, passait entre les amas de gravats à l'extérieur du mur d'enceinte, lequel était tapissé de lierre grimpant à cet endroit. Le snab ouvrit la marche. Il sautillait dans les herbes hautes et enjambait avec agilité les briques éparpillées. Après moins d'une centaine de pas, je discernais une silhouette blanche dans la pénombre devant nous. Elle poussa un hennissement. Assise en tailleur à côté de Falada, la princesse Léa attendait l'aube. Elle vit d'abord le criquet, puis notre petit groupe. Elle se leva aussitôt et porta la main à son épée, campée sur ses deux jambes, prête à en découdre. Falada prit la parole en se dispensant de parler à la troisième personne.
« Sœur Snab vous a conduit jusqu'à moi. Eh bien, maintenant que vous m'avez retrouvé, vous devez repartir. »
« Qui garde vos oies en votre absence, madame ?» Ce n'était pas ce que j'avais voulu dire, et jamais Charlie Reed de Sentry, Illinois, ne se serait exprimé de cette manière. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent légèrement au coin. Comme elle n'avait pas de bouche, c'était difficile à dire, mais j'avais l'impression que l'amusement se mêlait à la surprise. Falada répondit.
« Les employés de ma maîtresse, Wheat et Deacon, savent très bien s'en occuper. »
« Comme Dick Whittington, songeai-je. » Jaya demanda.
« C'est le cheval qui... »
Léa lui fit signe de se taire. Jaya recula et baissa les yeux.
« Maintenant que vous avez obtenu la réponse à votre question idiote, partez. J'ai une chose importante à faire. »
Je scrutais son visage relevé, magnifique si on exceptait la cicatrice à la place de sa bouche et la vilaine lésion à côté.
« Avez-vous mangé ? » demandai-je. « Vous devez prendre des forces avant ce qui vous attend, madame. »«
J'ai mangé ce dont j'avais besoin, » répondit Falada.
Je voyais la gorge de Léa se contracter sous l'effort qu'elle devait produire pour projeter sa voix.
« Maintenant, allez-vous-en, c'est un ordre. »
Je pris ses mains. Elles étaient minuscules dans les miennes et froides. Elle faisait bonne figure, la princesse hautaine qui contrôle ses émotions, mais je la devinais terrassée par la peur. Elle essaya de retirer ses mains. Je résistais.
« Non, Léa, c'est moi qui donne des ordres. Je suis le prince annoncé, et je pense que vous le savez. »
« Pas le prince de ce monde, » rétorqua Falada.
J'entendais les petits bruits secs et les marmonnements dans la gorge de Léa. Son discours poli répondait à une nécessité plus qu'à un désir. Si elle n'avait pas été obligée, au prix d'un terrible effort, de parler par l'intermédiaire de sa jument, elle m'aurait passé un sacré savon. Il n'y avait plus aucune trace d'amusement dans ses yeux, uniquement de la fureur. Cette femme, qui nourrissait les oies en leur lançant des graines, avait l'habitude qu'on lui obéisse sans protester.
« En effet, dis-je, je ne suis pas le prince de ce monde et je ne suis pas un prince dans mon monde, mais j'ai fait un long séjour dans un cachot. J'ai été contraint de tuer et j'ai vu mes compagnons mourir. Vous comprenez, princesse ? Vous comprenez que j'ai le droit de vous commander ?»
Falada ne dit rien. Une larme s'échappa de l'œil gauche de Léa et roula lentement sur sa joue lisse.
« Faites quelques pas avec moi, je vous prie. »
Elle secoua la tête si violemment que ses cheveux balayèrent son visage. Une fois de plus, elle tenta de libérer ses mains et une fois de plus, je résistai. On a encore le temps, au moins une heure avant que le jour se lève, et le sort de votre monde tout entier dépend peut-être de notre échange. Le mien est peut-être en danger lui aussi. Alors, s'il vous plaît. Je lâchai ses mains et sortis une des dernières allumettes de ma chaussette. Je la frottai contre les pierres rugueuses du mur après avoir écarté quelques branches de lierre. J'approchai la flamme de mon visage comme je l'avais fait avec Ayota. Léa se dressa sur la pointe des pieds pour m'observer, de si près que j'aurais pu déposer un baiser sur son front.
« Bleu !»
dit Falada.
« Elle parle !» murmura Iris. « Non, non, c'est la femme !»
dit Ayota, tout bas lui aussi. Ils étaient estomaqués, comme moi. Et quoi de plus naturel ? Il y avait de la magie dans tout ça, et j'en faisais partie désormais. Cette idée me terrifiait car je n'étais plus vraiment moi-même, et en même temps, cela m'exaltait. « Venez, madame, il faut qu'on parle. S'il vous plaît, venez. » Elle obéit. 7. On s'éloigna sur le chemin, à l'écart des autres, entre le mur tapissé de lierre sur notre gauche et les ruines du faubourg sur notre droite, sous le ciel obscur. « Il faut l'arrêter, » dis-je, « avant qu'il provoque un effroyable cataclysme. » Radar marchait entre nous, avec le snab perché sur son dos, et ce fut le criquet qui répondit. D'une voix beaucoup plus nette que celle qu'utilisait Léa quand elle s'exprimait par le biais de Falada.
« Ce n'est pas mon frère. Flight Killer n'est pas Elden. Jamais il ne ferait des choses aussi affreuses. Il était doux et affectueux. »
« Les gens changent, » pensais-je. Mon père a changé et j'ai changé quand j'étais avec Bertie. Je me souvenais de m'être demandé pourquoi quelqu'un de bien comme moi pouvait faire des trucs aussi dégueulasses.
S'il est toujours vivant, dit le snab, il est prisonnier. Mais je n'y crois pas. Je pense qu'il est mort, comme tant d'autres membres de ma famille.
C'est aussi ce que je pense, dis-je. Ce n'était pas un mensonge, car assurément, le Elden qu'elle avait connu, celui qui lui tenait la main quand ils exploraient les coins secrets du palais, celui qui écoutait les chansons de la sirène, cet Elden était mort. Ne restait que la marionnette de Gog Magog. On s'arrêta. Je voyais remuer sa gorge pendant que le snab parlait. Tout ce ventriloquisme devait être douloureux, même si le snab était un intermédiaire idéal, mais elle ressentait le besoin d'exprimer ce qu'elle gardait dans son cœur depuis si longtemps.
« S'il est prisonnier, je le libérerai. S'il est mort, je le vengerai. » pour que soit levée la malédiction qui pèse sur ce triste royaume. C'est mon devoir, pas le tien, fils d'Adrian Bodich.
Je n'étais pas son fils, juste son héritier, mais ce n'était pas le bon moment pour la détromper. Flight Killer a sans doute rejoint le puits obscur, princesse. Il va attendre que les deux lunes s'embrassent et que le passage s'ouvre. Pouvez-vous le localiser ? Elle hocha la tête, mais paraissait hésitante. Acceptez-vous de nous y conduire ? Sans vous, on n'a aucune chance de le trouver. Si je vous promets de remettre le sort de Flight Killer entre vos mains quand on sera face à lui. La réponse se fit attendre. Elle n'était pas sûre que je tienne ma promesse, et elle avait raison de se méfier. Si elle reconnaissait Elden, mais ne pouvait se résoudre à le tuer, même en songeant à ce qu'il était devenu, exaucerais-je son souhait de le laisser vivre ? Je pensais au visage ravagé et à la bonté de Dora. Je pensais au courage de Percy, qui lui avait sans doute coûté très cher. Je pensais aux réfugiés à la peau grise qui fuyaient le front de mer en quête d'un asile qui n'existait probablement pas. Si vous placiez ces êtres blessés et maudits dans un plateau de la balance, et dans l'autre, le cœur sensible d'une princesse, elle penchait forcément d'un côté.
« Es-tu prêt à faire une telle promesse à Léa des Galiens ?»
Ce n'était pas un retour à la troisième personne. Je pense que le snab parlait en son nom cette fois. mais j'étais convaincu que Léa se posait la même question. Oui, elle demanda.
Tu le jures sur la tête de ta mère, qu'elle brûle dans les flammes de l'enfer si tu romps ta promesse ?
Je le jure, répondis-je sans hésitation, et c'était une promesse que j'avais l'intention de tenir. Quand Léa verrait ce qu'était devenu son frère, peut-être le tuerait-elle elle-même. Je ne pouvais qu'espérer. Dans le cas contraire, je donnerais le revolver de M. Bodich à Iota. Il n'avait jamais tiré avec, mais je n'étais pas inquiet à cet égard. Une arme à feu, c'est comme un appareil photo bon marché. Il suffit de viser et d'appuyer.
Tes amis et toi, vous suivrez Léa et vous lui obéirez.
Oui. Elle savait sans doute qu'elle ne pouvait pas m'empêcher de la suivre. Les autres obéiraient peut-être à un ordre émanant de la future reine d'Empis, mais pas moi. Comme elle l'avait dit elle-même par l'intermédiaire de Falada, je n'étais pas un prince dans ce monde, et par conséquent, je n'étais pas tenu de lui obéir. Au-dessus de nous, le ciel s'éclaircit. Les humains levèrent la tête, Radar aussi, et même le Snab. Deux globes éclatants illuminèrent les nuages. Les lunes étaient si proches l'une de l'autre maintenant qu'elles semblaient dessiner un 8 allongé, ou le symbole de l'infini. En quelques secondes, elles disparurent derrière les flèches du palais et le ciel s'assombrit de nouveau.
« Soit, »
dit le Snab,
« j'accepte les termes de ce marché. Mais arrêtons de parler, s'il te plaît. Ça me fait mal. »
« Je sais. Désolé. » Radar poussa un gémissement et lécha la main de Léa. Elle se pencha pour la caresser. Le pacte était scellé.